Donc c'est le sixième message dans l'Épître aux Romains. Et on est toujours dans le chapitre 1, mais on termine le chapitre 1 aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder, c'est les profondeurs du péché chez l'humanité. Ce n'est pas moi qui aborde tout ça, c'est le texte qui le dit, et on va observer ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Donc, la dernière fois, nous avons vu que l'humanité toute entière fuit la réalité et l'existence du Dieu Saint à cause de notre cœur obscurci. Puisque Dieu est la vérité, il est la lumière, il est le point de référence, il est le nord sur le boussole, cette fuite aboutit obligatoirement dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc la dernière fois, je vous ai dit que sans intelligence divine dans leur cœur, l'humanité s'enfonce dans les mensonges et les ténèbres spirituelles. La question devant nous aujourd'hui se pose ainsi. Quelle est la profondeur des ténèbres, de ces ténèbres? Donc, je le dis encore, préparez-vous parce que la réponse est assez déprimante. Okay? Mais avant de répondre, je voudrais expliquer deux choses. Premièrement, Paul n'utilise aucune personne en particulier comme exemple de son enseignement. Il ne focalise sur personne. Pourtant, il parle de l'humanité toute entière et donc, logiquement, chaque personne est concernée. Les manifestations extérieures de nos cœurs ténébreux varient de personne en personne. Et puis, il y a dans nos pensées à chacun des choses que nous imaginons faire, mais nous ne souhaitons vraiment jamais les faire. Okay? Mon professeur de théologie disait assez souvent ces phrases. Il ne faut pas dire, moi, jamais, je ne commettrai tel péché. Car, il disait, seule la grâce de Dieu vous garde des mauvaises manifestations de votre cœur. L'humanité est comme un tableau noirci par le péché. En contraste, l'Évangile resplendit de toutes parts par sa luminosité infinie. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Le second point que je veux dire, que je veux expliquer, c'est que depuis le niveau le plus bas, il n'y a plus que deux choix. Soit y rester, soit remonter. C'est ce que je vais appeler l'effet du trampoline. Quand on descend le plus bas dans le tissu, soit on s'écrase là en bas, on est tombé, ou on remonte. Quant à l'épître aux Romains, Paul commence son épître en montrant d'abord comment l'humanité toute entière s'est enfoncée le plus profondément possible dans le tissu du trampoline. Puis, dans les épîtres qui vont suivre, dans le 3, 5, 8, etc., jusqu'à la fin, il va expliquer que le seul moyen de remonter, c'est par l'Évangile de Jésus-Christ, quoi que soient nos péchés à chacun. Tout le reste de l'épître, par la suite, va expliquer comment l'Évangile sauve ceux qui croient, l'importance de partager ce message et comment ceux qui ont cru devraient vivre en conséquence de leur foi. Si on a cru en Jésus-Christ, ça veut dire quoi pour ma vie dans tous les jours? Donc on va lire le texte, Romains chapitre 12, versets 21 à 32. Vraiment, la prédication commence avec le verset 22, mais je commence avec la lecture au verset 21. Romains chapitre 1, verset 21. Je vais prendre un petit peu du verset 20. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bon, ça, c'était la dernière fois. Aujourd'hui, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, à leur sens reprouvés, pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça, c'est le texte que nous voyons aujourd'hui. Donc maintenant, on va relire le texte et je vais ajouter quelques mots explicatifs, pas de tous les mots, mais il y a beaucoup de mots à expliquer et donc on va essayer de raccourcir ça. Donc, on recommence avec le verset 22, et je vais expliquer certains mots, ok? Verset 22, « Se vantant d'être sage. » Donc, ça, c'est pour dire « s'auto-proclamant sage. » Ok? Et vous savez bien, au moins en Europe, on adore l'intellect humain. Ok? On dit « Tiens, on est vraiment intellectuel. » Ok? Et c'est peut-être vrai dans le niveau humain, mais en comparaison avec la vérité en Dieu, eh bien, non. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, d'où vient notre mot « moron », qui veut dire ils se sont tournés vers les sottises. Ils sont devenus imbéciles. Donc, ici, il dit simplement « fous », mais c'est tous la même signification dans le mot en grec. Et ils ont changé, donc modifié, échangé ou troqué, la gloire du Dieu incorruptible, et incorruptible veut dire que Dieu est indestructible, impérissable, il est immortel. Donc si vous prenez une idole, vous pouvez le casser. Vous pouvez le brûler peut-être si c'est en bois. Mais Dieu, le vrai Dieu, non, il est indestructible, il est immortel, il ne peut pas mourir. Donc ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, donc image en similitude, en idole, représentant l'homme corruptible, donc l'homme périssable, l'homme mortel, aussi des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés, donc c'est un mot qui veut dire mettre en prison. Et c'est donné dans le sens de rendre les gens captifs à leur propre volonté, c'est-à-dire les gens se mettent en prison à leur propre désir, ok? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc, eux ont des convoitises dans leur cœur et ils se rendent prisonniers de ces choses-là. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé, donc c'est le même mot, échangé ou troqué, la vérité de Dieu en mensonge. Donc, ils montrent, par ce mot mensonge, veut dire, ils montrent leur préférence pour le mensonge. Donc, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, ont vénéré et servi, donc ils ont rendu leur culte à la créature, donc les choses qui étaient créées, au lieu du créateur, celui qui a tout créé, celui qui a les droits du fabricant. Il est le créateur. Et lui qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, donc il veut dire, à travers de tout cela, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc là, ce mot infâme veut dire honteuse, d'une utilisation déshonorante. Donc Dieu les a rendus captifs à leur passion déshonorante. Car, il dit, leurs femmes ont changé, donc elles ont échangé ou troqué encore, l'usage naturel, donc la fonction sexuelle instinctive ou en accord avec la nature. Elles ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, qui est à côté de la nature, de ce qui est inhérent, qui est d'origine. Et donc, elles ont montré leur préférence pour une sexualité qui est contre la nature instinctive. Et de même, verset 27, les hommes, abandonnant l'usage naturel, donc la fonction sexuelle naturelle de la femme, se sont enflammés dans leur désir. Donc, c'est un mot qui signifie ils ont un appétit fort pour ce qui est hors norme. Commettre homme avec homme des choses infâmes, donc les comportements indécents, ça veut dire ça, et recevant en retour, recevant ce qui est dû, recevant ce que se mérite, en eux-mêmes, donc dans leur corps, le salaire ou la récompense ou la rétribution qui méritait, c'est-à-dire la conséquence inévitable ou nécessaire à leur égarement. Et égarement veut dire leur errance, leur illusion et leur fraude. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés, comme ils ne pouvaient pas supporter ou approuver l'idée de connaître Dieu, c'est-à-dire selon les critères d'évaluation, ça ne valait pas la peine d'avoir l'idée du vrai Dieu dans leur pensée. Eh bien, Dieu les a livrés. Il les a rendus captifs à leur sens réprouvé. Donc, ça, c'est leur sens et leur faculté de raisonnement ou intellect qui est, il dit, réprouvé. C'est l'idée d'être contrefait ou non approuvé, même naufragé ou sans valeur pour aboutir à commettre des choses indignes. Verset 29, c'est très long ce petit paragraphe-là, étant rempli de toute espèce d'injustice, donc je vais donner quelques significations de méchanceté ou de maladie morale, de cupidité, donc de fraude, le désir d'avoir l'avantage sur les autres, même agression, de malice, plein d'envie, donc de mauvaise volonté ou de rancune, de meurtre, de querelle, de ruse, donc ruse c'est la tromperie, la trahison, la duperie, de malignité ou malveillance. Verset 30, rapporteur, médisant, donc médisant veut dire diffamateur ou calomniateur. Impie, c'est intéressant, le mot veut dire ayant la haine pour Dieu. Ce mot-là, impie veut dire ayant la haine pour Dieu, qui déteste Dieu. Arrogant, donc une personne qui insulte les autres, qui est violent dans ses propos. Hautain, donc qui se considère mieux que les autres. Fanfaron, c'est comme un homme animé par l'alcool. Ingénieux au mal, rebelle à leurs parents. Et là, rebelle à leurs parents, ça veut dire que ces enfants ou jeunes, ils sont incapables de persuader. Ils refusent toute explication. Incapable de les persuader. dépourvu d'intelligence. Donc ça veut dire sans discernement moral, plutôt que sans compréhension intellectuelle. C'est surtout l'idée sans discernement, sans compréhension morale. Et puis le prochain mot, donc ça commence là avec dépourvu d'intelligence. Chacun de ces quatre mots ou phrases ont le petit négatif devant. Donc ils ont dit dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ok? Verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ou ils partagent les mêmes pensées avec ces gens ou prennent même plaisir avec ceux qui les font. Donc maintenant, je vais donner quelques explications de ce texte sans entrer dans trop de détails, mais c'est très important pour bien comprendre notre problème, la profondeur de notre péché. Donc, premièrement, il faut que vous vous rappelez que Paul, donc sans ignorer ses confrères juifs, il focalise surtout sur les païens. Il s'adresse aux païens dans l'objectif de leur expliquer l'Évangile. Il explique que nos ancêtres, donc je veux dire nos lointains ancêtres, quoi que soit notre partie du monde, hein, on va suffisamment loin, on va trouver que tous nos ancêtres ont connu le Dieu créateur. Et là, c'est expliqué dans Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 10. Cependant, nos ancêtres ont quitté, et c'était volontairement, ils ont quitté la connaissance du vrai Dieu, avec le résultat que, actuellement, donc à l'époque de Paul, comme à notre époque aussi, les païens se trouvent sans intelligence spirituelle, donc d'après Dieu, sans révélation divine et sans connaissance exacte de Dieu. En prenant la fuite pour s'éloigner de Dieu, les nations se sont enfoncées dans l'obscurité du péché. Premièrement dans leur pensée, et puis ensuite dans leur pratique. Ils ont semé le vent et ont récolté la tempête. Dans les versets 21 à 23, nous allons voir que l'homme dans l'Antiquité et l'homme moderne, tous les deux, l'homme est en fuite de Dieu. Donc, verset 21, avec la petite partie de verset 20, ils sont sans excuse devant Dieu, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, immortel, en image, en idole, représentant l'homme corruptible, l'homme mortel, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Les nations, donc il veut dire toutes les nations, les païens, toutes les nations sont devenues idolâtres. Et on lit à travers l'Ancien Testament, et les archéologues confirment, que tous les peuples sont devenus idolâtres. Les seules exceptions étant, à la limite, n'est-ce pas, le judaïsme biblique avant Jésus et le christianisme biblique depuis Jésus. Et quand j'ai dit ça, il faut reconnaître que tous les deux sont assez rares quand même. Vraiment une religion biblique, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Aujourd'hui encore, on fuit Dieu. Toutes les nations, y compris les pays anciennement chrétiens, on retourne rapidement dans l'idolâtrie. Vous n'avez pas besoin de regarder très loin pour voir que l'industrie de la fabrique des idoles, que ce soit pseudo-chrétien ou non-chrétien, marche bien, même aujourd'hui. Je suis entré dans plusieurs magasins récemment et on voit tout de suite, on voit les statues de certaines idoles. Hein? Même aujourd'hui, l'homme préfère ne pas connaître le vrai Dieu. Il veut un Dieu qui lui convienne. Dans notre texte aujourd'hui, nous lisons trois fois l'expression « Dieu les a livrés ». Ok, donc ça c'est un peu l'ordre du reste du message. « Dieu les a livrés ». Alors, à comprendre que Dieu s'interdit de manipuler la volonté humaine. Dieu nous a créés avec une volonté et il nous permet à exercer cette volonté. Pourtant, si une personne insiste de progresser dans un mauvais chemin, eh bien Dieu permet que la personne devienne captive ou victime de sa propre volonté. Dieu les livre à telle ou telle chose. Donc, premièrement, versets 24 et 25, Dieu les a livrés selon leur cœur à l'impureté et à la convoitise. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés, donc Dieu les a rendus captifs selon leur propre volonté, à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé volontairement, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi, donc ils ont rendu leur culte à la créature, à la création, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et puis Paul dit Amen. Donc le cœur humain, donc ça veut dire votre cœur et mon cœur, parce qu'on a tous le même cœur humain, n'est-ce pas? Eh bien, à cause du péché, désire fortement des impuretés qui déshonorent notre corps. C'est ça que ça veut dire, ce qu'on vient de lire. Ce sont diverses habitudes, vices, péchés, hein, habitudes, vices et péchés, qui vous asservissent. Donc, que ça soit, je vous donne quelques exemples que j'ai dit, tiens, on va donner quelques exemples. Cigarette, alcool, pornographie, drogue, sport extrême, ou au contraire, l'inactivité, la paresse, etc. Tout ce qui peut nuire à votre santé. Deuxièmement, on voit dans versets 26 et 27, Dieu les a livrés aux passions infâmes, c'est-à-dire des impuretés sexuelles et les conséquences attachées à de telles pratiques. Verset 26, c'est pourquoi, donc, déjà parti dans le mauvais sens au verset 24 et 25, déjà parti dans le mauvais sens, le chemin mène plus loin à d'autres passions. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, à des immoralités sexuelles. Donc on donne deux exemples. Paul donne deux exemples extrêmes. Deux exemples extrêmes des pratiques déshonorantes dans la sexualité. Okay? Donc, en premier, Paul dit... Car leurs femmes ont changé l'usage naturel, donc leur fonction sexuelle instinctive, en celui qui est contre une déviation de la nature. Donc le grec veut dire à côté. Donc il y a ce qui est naturel et puis c'est à côté. Ce n'est pas au contraire, ce n'est pas le négatif et positif, c'est juste à côté. Okay? C'est ça que ça veut dire. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre ou une déviation de la nature d'origine. Et en second extrême, Paul dit, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, donc la relation sexuelle selon la nature créée par Dieu à l'origine, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, des choses indécentes, et recevant, donc comme dû mérité, en eux-mêmes, dans leur corps, le salaire qu'ils méritent, donc les conséquences inévitables de leur égarement. Bien que ces déviations dans le domaine de la sexualité par rapport à ce qui est naturel à l'humanité soit donné en exemple, elles ne sont pas les seules déviations que prennent l'humanité. Il y en a qui focalisent sur ce problème-là. Mais ce n'est pas le seul problème. Et longue liste à la fin du chapitre est la preuve. Paul va dresser cette longue liste des pratiques inacceptables, des pratiques qui provoquent la même colère de Dieu. Dieu est en colère contre tout péché, pas contre un péché ou un autre péché, mais contre tout péché. Tout ce qui transgresse l'ordre établi par Dieu est péché. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons connaître ces choses. On ne sait pas, des fois, qu'est-ce que c'est le péché, on ne sait pas. Mais la parole de Dieu nous le définit clairement. Par exemple, dans la liste qui va suivre, se trouve la petite phrase « rebelle à leurs parents ».
Oh ben, les jeunes sont rebelles, c'est naturel, n'est-ce pas?
Mais si on lit dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 15 et verset 23, nous apprenons que la désobéissance, ou traduit la rébellion, est aussi grave que la divination, c'est-à-dire les pratiques occultes, d'être carrément en opposition à Dieu. Donc c'est, toutes ces choses sont des péchés, toutes ces choses sont graves. Et troisième fois que Dieu va livrer, donc verset 28, Dieu va livrer à leur sens reprouvé. Notre faculté de raisonnement est gravement abîmée. On dit, ah, j'ai une intelligence qui est très bien, très mathématique, très raisonnable, je raisonne bien. Eh bien, non. Notre faculté intellectuelle, comme le reste de nous, est atteinte du péché, est abîmée. Donc, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, donc comme ils ne voulaient pas penser au véritable Dieu saint, donc, c'est pas pour dire que les gens n'ont pas leur religion. Les gens veulent bien avoir religion. On est des êtres religieux. Mais on ne veut pas ce Dieu-là. Ce Dieu qui était sur la montagne avec Moïse, qui avait des flammes et des tonnerres, la fumée et tout ça. Ça faisait peur. On ne veut pas connaître ce Dieu-là. Eh bien, comme ils ne voulaient pas connaître le Dieu véritable et saint, Dieu les a livrés. Il les a rendus victimes à leur sens réprouvé, à leur faculté de raisonnement abîmée, pour aboutir à commettre des choses indignes. Donc indignes de ce que Dieu voulait pour l'homme. On est créé à l'image de Dieu. On devrait être d'une certaine dignité. Eh bien non, commettre des choses indignes. Puisque le Dieu véritable ne convient pas aux non-croyants, chaque non-croyant, chaque personne, fait son propre Dieu d'après ce qui lui convient pour ne pas être gêné selon leur imagination défectueuse. Donc, il imagine un Dieu, et voilà, je vais adorer ce Dieu-là, mais ça me convient. Et ça ne les gêne pas. Pourtant, devenir prisonnier de ses propres passions et être méprisé par ses propres vices n'est pas vraiment le bonheur. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Je suis maître de moi-même. Je peux faire comme je veux. Oui, mais ce n'est pas vraiment le bonheur. Et on va voir ça dans le reste de ce chapitre, versets 29 à 31. Donc ici, on a Paul qui va donner cette liste. Et cette liste est partielle. Hein? Il y a d'autres endroits dans le Nouveau Testament qui donnent plus de détails. Donc Paul donne cette liste partielle qui dessine la nature pécheresse en nous, hein? Dans l'humanité, dans l'individu. Verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde, c'est-à-dire la cruauté. Eh bien, premièrement, il ne faut pas penser que tout le monde fait toutes ces choses. C'est les choses qui sont en nous, qui voudraient bien se manifester, mais heureusement, maman nous a donné un fessé quand on a pris un mauvais chemin, quand on était petit, n'est-ce pas? On pourrait manifester toutes ces choses, mais quel monde si tout le monde manifestait tout ça? Non, mais chacun, de sa façon, manifeste le péché. De toute façon, le portrait de ce qui est en nous et de ce qui pourrait être nos mauvaises pratiques, eh bien, c'est accablant. La parole de Dieu enseigne aux croyants une pratique de vie bien plus élevée que ce que nous lisons dans cette liste. Mais, malheureusement, l'homme sans Dieu dans son cœur et l'homme sans Dieu dans ses pensées est voué à parcourir ce chemin destructif. C'est le chemin des nations, des païens, à qui s'adresse l'Évangile. Paul décrit tout ça pour dire, voilà où vous êtes. Mais l'Évangile, c'est la sortie. En lisant dans Lévitique, chapitre 18, vous allez voir que les pratiques des nations sont les mêmes pratiques que Paul décrit ici. Il y a plein de déviations dans le domaine de la sexualité et tout ça. Il n'y a rien de nouveau. L'homme pécheur n'a pas changé. Le verset 32, Paul va terminer le passage, il va invoquer en fait la duplicité des hommes. Hein? D'un côté, oh, faut pas faire ça, et de l'autre côté, mais je veux bien le faire. Ok, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, donc de telles choses, ça commence en haut et ça fait tout le chapitre. C'est pas en particulier une de ces choses, c'est n'importe quelle de ces choses. Adam n'a pas commis quelque chose dans cette liste et il est mort du péché. On ne peut pas pécher et survivre. Dieu n'accepte aucun péché. Okay? Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ou prennent plaisir dans ou avec ceux qui les font. Notre cœur et nos pensées sont tordus. C'est ça que la Bible nous dit. Et le prophète Jérémie l'exprime ainsi dans Jérémie 17:9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et donc dans la suite, il va dire, Dieu peut connaître votre cœur, mais vous ne pouvez même pas connaître votre propre cœur. Dans nos pensées tordues, nous imaginons que nous allons bien. Eh bien, Dieu sait mieux. Seul un changement radical, une repentance sur la base de la révélation divine et une foi qui a Jésus-Christ comme objectif peut vraiment nous aider, peut vraiment nous transformer. Dans le dernier message, nous avons focalisé sur les évidences que Dieu a laissées pour que chacun puisse le trouver. Nous avons vu aujourd'hui ce qui pousse l'humanité tout entière à s'éloigner de Dieu. Okay? Nos cœurs pleins d'impureté et de convoitise, des passions déshonorantes, les incapacités de raisonner selon Dieu. Tout ceci est le résultat du péché d'Adam qui nous a lancés dans les profondeurs des dégradations humaines. Ce tableau de notre humanité est tellement moche que certains Romains ont conclu, bon, ce n'était pas une bonne conclusion, mais c'était ça qu'ils ont conclu, que les chrétiens avaient la haine, de la haine pour la race humaine. C'est pas vrai. On n'a pas la haine pour la race humaine. Mais nous aimons la race humaine, n'est-ce pas? Et nous voulons le bien pour la race humaine. Ce que nous n'aimons pas, c'est le péché qui alimente la misère et qui accélère la mort. La clé, donc aujourd'hui, on peut résumer, la clé pour accepter ce que nous avons vu, c'est de reconnaître que les êtres humains agissent en toute liberté. Ce que vous faites, c'est que vous le faites. Vous avez la liberté d'agir comme vous voulez. Nous créons nos propres religions ou manque de religion, et ensuite, nous agissons selon nos propres désirs égoïstes et tordus. Sur le premier plan, l'on sème et l'on récolte. Comme Salomon a dit, le méchant creuse un trou, puis il tombe lui-même dedans. En revanche, nous savons aussi que très souvent, ce sont les autres qui subissent les méchancetés des autres. Ça, c'est souvent la réalité. N'est-ce pas sévère la critique qu'on a lue aujourd'hui de notre humanité pécheresse? C'est déprimant, vraiment, c'est moche. Hein? Que vous soyez chrétien ou non chrétien, il ne faut pas minimiser vos péchés. Le péché est moche. Il faut plutôt les reconnaître à leur propre valeur. Cela prépare le chemin pour la repentance, pour la foi en Jésus-Christ et pour une vie vraiment chrétienne. Quoi que soient vos péchés, il y a de l'espoir. Les prochains chapitres dans l'Épître aux Romains vont rendre manifeste l'amour de Dieu pour chacun de nous, où que nous nous trouvions dans les descriptions que vous venez d'entendre. Puis, vous allez voir que la bonne nouvelle de salut est disponible à toute personne qui la veut. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.